Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir.
La revue de presse de Natacha Polony avant de retrouver...
Reportage, on se retrouve après.
Alors les élections départementales occupent encore beaucoup la presse ces derniers jours, Jérémy.
Mais oui, les départementales font toujours la une de beaucoup de quotidiens, 3 jours après le second tour. Et tous les titres vont dans le même sens, pour souligner la défaite du PS et ses conséquences. Alors Le Monde parle de la droite victorieuse Sarkozy confortée, l'Est républicain France en bleu, gauche en feu, les Échos comment Hollande prépare l'après des routes, etc. Mais c'est l'opinion qui résume le mieux les choses en titrant malicieusement « Hollande lost in election ». On n'a donc pas fini de parler de ces élections. Et c'est d'ailleurs très surprenant parce qu'il n'y a bien que les médias pour se passionner pour des élections boudées par la moitié des Français.
Et la leçon à retenir, c'est que la majorité se délite.
Oui, et il semblerait que la chute de la maison socialiste ne connaisse jamais de fin. Car il n'y a pas que dans les urnes que la majorité multiplie les errements. Paul-Henri Dulimbert, du Figaro, s'impatiente, comme beaucoup, « Encore 2 ans !» s'exclame-t-il dans son édito. Et c'est ainsi que l'opinion est amenée à énumérer les possibilités pour François Hollande de se ressaisir politiquement. Alors tout y passe, changer de Premier ministre, remanier, réorienter sa politique. Et à chaque fois, la réponse du quotidien est sans appel. Puisque le président a décidé de maintenir le cap libéraux-vasouillard qu'il s'est fixé, il est condamné à l'immobilisme. Seule solution esquissée, rassembler sur des sujets consensuels comme l'écologie ou l'éducation. Ce qui est très naïf de la part de l'opinion parce qu'on attend encore une politique écologique de la part du gouvernement. Et d'ailleurs, ce n'est guère plus brillant dans l'éducation. Marianne revient dans son édito sur la réforme du collège présentée ces dernières semaines par Najat Vallaud-Belkacem. Une réforme qui propose de remplacer l'enseignement du latin au collège par une simple initiation. Au nom de l'égalité des chances, paraît-il. Ce qui a le don d'irriter Joseph Massescaron, pour qui, avec ce genre d'argument, je cite, « le ciel des idées s'est obscurci sous la pollution idéologique ».
Et en plus de tout cela, le Sénat s'apprête à examiner la loi Macron.
Oui, et c'est encore un errement de plus. Alors, il faut absolument lire Le Monde diplomatique d'avril, excellent comme d'habitude. Martine Bullard consacre un article vraiment très solide à la loi Macron. Elle montre comment cette loi est taillée sur mesure pour plaire aux dictats de Bruxelles. Et elle prouve la cohérence idéologique du projet, une destruction de l'État et de notre système social sous couvert de modernisation. Elle donne le détail vraiment effarant des mesures prévues par le texte. Bon alors, impossible d'en dire plus ici, mais c'est vraiment ce qui s'est écrit de plus pertinent ces derniers mois sur cette réforme, au-delà du commentaire politique à la petite semaine.
Oui, et un fait révélateur, Emmanuel Macron a été félicité par Angela Merkel pour cette réforme.
Mais oui, tout cela réjouit la droite allemande. Et le Figaro consacre d'ailleurs un émouvant papier au couple Hollande-Merkel, qui s'est, paraît-il, beaucoup rapproché ces temps-ci. Alors, les deux auteurs en font des tonnes sur les sourires échangés, sur la tête d'Angela posée sur l'épaule de François après les attentats de janvier.
Oh.
Mais entre les lignes, on comprend en fait que les deux ne se sont jamais si bien entendus que depuis le virage libéral de Hollande, celui qui a été amorcé en janvier 2014, et l'arrivée de Valls à Matignon quelques mois plus tard. Il faut croire que qui se ressemble politiquement s'assemble sentimentalement.
Et il n'y en a donc que pour François Hollande alors dans la presse?
Non, mais ce qu'on lit sur l'actualité internationale n'est guère plus réjouissant. Libération nous parle des bombardements au Yémen, commis par une coalition sur laquelle Le Monde revient longuement, en expliquant que cette coalition militaire sunnite, qui combat les rebelles houthistes du sud du Yémen, pourrait déstabiliser tout le Moyen-Orient. En jeu, eh bien, toujours l'opposition entre chiites et sunnites, et la revendication d'une identité arabe que chaque camp croit menacée par l'autre.
Et toujours dans l'actualité internationale, l'Union européenne et la fin des quotas du lait.
Mais oui, puisqu'on parlait de tournant libéral tout à l'heure, il faut savoir qu'aujourd'hui, mercredi 1er avril, les quotas laitiers prennent fin officiellement dans l'Union européenne. Car depuis 1984, chaque État membre n'avait le droit de produire qu'un certain nombre de litres, comme le rappelle la Croix. Alors, vous trouverez peut-être tout cela bien anodin, mais ça n'est pas du tout. Le Monde explique clairement ce qui a pu justifier cette décision. D'abord, une augmentation mondiale de la demande en lait. Et la crainte pour les producteurs européens de se voir couper l'herbe sous le pied par les vaches de Nouvelle-Zélande, très compétitives. Et alors, les risques de cette fin des quotas sont bien sûr considérables. Puisqu'on libéralise le marché, les prix risquent de devenir volatiles et très incontrôlables. Au détriment, comme toujours, des petits producteurs, en concurrence avec les grands groupes alimentaires plus compétitifs. Et comme 6% des exploitations laitières en Europe disparaissent chaque année, on va se retrouver avec de plus en plus de fermes des 1000 vaches, ces véritables usines à malbouffe complètement déconnectées de la nature et de l'environnement. Et c'est un peu idiot quand même d'oublier que les vaches ont besoin d'un environnement spécifique pour produire du lait sain. Mais bon, c'est pareil avec les départementales, où les hommes politiques semblent avoir oublié que les départements aussi s'inscrivent dans des espaces et des territoires qui ne sont pas interchangeables.
Alors merci Jérémy pour cette revue de presse, on reparle de tout ça tout à l'heure évidemment. Maintenant, chers auditeurs, on va changer d'air et d'univers. Petit clin d'œil à Buena Onda, on part en Amérique latine, mais dans un pays où l'on ne parle pas espagnol. Direction le Brésil en effet pour l'enquête de ce troisième numéro, puisque depuis septembre dernier, une immense enquête policière, l'opération Lavo Jato, fait vaciller les élites politiques et économiques dans un pays où la corruption constitue encore très largement la règle. Alors organisateur de la dernière Coupe du Monde de football et des prochains Jeux Olympiques, connu pour ses inégalités sociales qui sont immenses, le Brésil est une des puissances émergentes majeures à l'échelle de la planète. Il s'agit de la septième puissance économique mondiale par le PIB. Et surtout, le pays est une de ses nouvelles puissances pétrolières grâce à des réserves extrêmement importantes. Et c'est ce pétrole, chers auditeurs, qui est au cœur du scandale par l'intermédiaire de la société Petrobras qui exploite ses gisements. Depuis la fin des années 90, la société aurait versé plus de 3,4 milliards d'euros à des hommes politiques de tous bords dans un système impliquant également des entreprises du BTP.
Mais alors Petrobras, c'est une entreprise très puissante au Brésil ou pas ?
Oui, l'entreprise est extrêmement puissante du fait de la part du pétrole dans l'économie brésilienne. Alors Petrobras fait partie des 20 plus grandes entreprises mondiales d'hydrocarbures et ses activités représentent environ 10% du PIB brésilien. Et en plus de tout cela, l'entreprise réalise 15% du total des investissements du pays. Alors on imagine aisément le poids politique qui est le sien. Et surtout, depuis des réformes conduites par l'ancien président Lula, l'entreprise a acquis un poids encore plus important. Alors jusqu'en 2010, l'État était le seul possesseur du pétrole du pays et faisait des conceptions à différentes compagnies, Petrobras, mais aussi des compagnies étrangères. Maintenant, Petrobras dispose d'un statut privilégié, puisqu'elle doit être associée à hauteur d'au moins 30% à toutes les exploitations d'hydrocarbures sur les gisements du pays. Les autres grands groupes internationaux n'ont pas vraiment aimé cette mesure qui favorise une de leurs rivales, mais pour Petrobras, c'est un accès garanti aux réserves du pays qui sont très importantes.
Et donc concrètement, comment est-ce que ça se traduit ?
Alors, l'entreprise est soupçonnée d'avoir mis en place un cartel. Petrobras lançait en effet des appels d'offres et s'arrangeait avec les entreprises qui répondaient à ces appels d'offres pour surfacturer les chantiers. Et cet argent supplémentaire, débloqué par Petrobras et en partie public, était ensuite redistribué à des membres de l'entreprise ou à des élus. Le système est ancien, il remonte au moins à 1997 et touche absolument toute la classe politique. Le Parti des Travailleurs, de l'actuelle présidente Dilma Rousseff et de son prédécesseur Lula, aurait reçu 150 à 200 millions de dollars. On comprend mieux alors pourquoi le 23 mars dernier, la justice brésilienne a annoncé le jugement du trésorier du Parti des Travailleurs. Et l'opposition de droite, eh bien, elle est également touchée, et ce sont au moins en tout 50 élus qui auraient reçu des pots de vin. Et la justice vise également les présidents des deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat.
Et la présidente Dilma Rousseff dans tout ça ?
Eh bien, Dilma Rousseff est sur la défensive pour plusieurs raisons. Si elle n'est pas sur la liste des personnalités ayant touché des pots de vin, sa situation est très loin d'être claire dans cette affaire. De 2003 à 2005, elle était ministre de l'énergie et donc présidente du conseil d'administration de Petrobras. Alors l'opposition de droite a assez habilement exploité tout ça lors de l'élection présidentielle d'octobre, que la présidente n'a remporté qu'avec 51%, c'est-à-dire vraiment de justesse. Et aujourd'hui, elle est encore plus affaiblie parce qu'elle donne le sentiment de céder aux plus puissants, les mêmes que ceux qui sont responsables des pots de vin chez Petrobras. En effet, Dilma Rousseff a nommé comme ministre de l'Agriculture dans son nouveau gouvernement Katia Abreu, principale représentante du complexe industrialo-agricole du pays, à la grande stupéfaction des mouvements qui luttent pour une meilleure répartition des terres.
Puis il y a aussi le nouveau ministre des Finances qui a une figure, comment dire, un peu particulière.
Et oui, c'est le cas de le dire. Le pédigré du nouveau ministre des Finances, Joachim Levy, est aussi important. Parce que Joachim Levy, il a été formé à Chicago, il est issu du principal parti d'opposition et il apparaît comme un véritable premier ministre virtuel, tant les mesures qu'il met en place sont majeures. Une véritable politique d'austérité qui touche directement les plus faibles salaires. Alors on imagine volontiers l'incompréhension des électeurs du Parti des Travailleurs, puisque ce parti pratiquait jusqu'ici une politique sociale généreuse et largement redistributive. Tout cela donne le sentiment que, face à la détérioration de la situation économique brésilienne, la présidente a cédé aux « remèdes » prônés par les marchés. Et pendant ce temps-là, toute cette classe politique a détourné des fonds publics à une échelle jamais vue. Alors la vérité, c'est que la corruption est un fléau brésilien et elle est absolument partout. Et si dans un pays en bonne santé économique, comme cela a été le cas entre 2003 et 2010, il était possible de faire passer cette question au second plan, aujourd'hui, maintenant que la situation s'est considérablement dégradée et que les populations fragiles se retrouvent à nouveau en danger, il n'est pas sûr que cela puisse continuer ainsi longtemps.